auditeurs, auditrices, Radio Galère. Vous êtes sur La Rosée, une émission culturelle, une émission de musique, une émission de théâtre tous les troisièmes lundis de chaque mois de 16h30 à 18h. Chère heure, chère Is, en 2024, la misère n'est toujours pas abolie. Mais malheureusement, les bons écrivains, si. Alors, par souci de nostalgie, nous allons lire un passage de L'Homme qui rit, de Victor Hugo, publié à la fin des années 1860, il y a près de 160 ans. L'homme qui rit, Victor Hugo. C'est tout de suite. En observant de près, voici ce qu'on eût pu noter. Tous portaient de longues capes, percées et rapiécées, mais drapés et au besoin les cachant jusqu'aux yeux, bonnes contre la bise et la curiosité. Sous ces capes, ils se mouvaient agilement. La plupart étaient coiffés d'un mouchoir roulé autour de la tête, sorte de rudiment par lequel le turban commence en Espagne. Cette coiffure n'avait rien d'insolite en Angleterre. Le midi, à cette époque, était à la mode dans le Nord. Peut-être cela tenait-il à ce que le Nord battait le midi. Il en triomphait et l'admirait. Après la défaite de l'Armada, le Castillan fut chez Élisabeth un élégant baragouin de cour. Pour parler anglais chez la reine d'Angleterre, était presque shocking. Un des hommes du groupe qui s'embarquait avait un air de chef. Il était chaussé d'alpargates et attifé de guenilles passementées et dorées et d'un gilet de paillon, luisant sous sa cape comme un ventre de poisson. Un autre rabattait sur son visage un vaste feutre taillé en sombrero. Ce feutre n'avait pas de trou pour la pipe, ce qui indiquait un homme lettré. L'enfant, par-dessus ses loques, était affublé, selon le principe qu'une veste d'homme est un manteau d'enfant, d'une sous-quenille de gabier qui lui descendait jusqu'aux genoux. Sa taille laissait deviner un garçon de 10 à 12 ans. Il était pieds nus. L'équipage de l'ourque se composait d'un patron et de deux matelots. L'ourque, vraisemblablement, venait d'Espagne et y retournait. Elle faisait sans nul doute, d'une côte à l'autre, un service furtif. Les personnes qu'elle était en train d'embarquer chuchotaient entre elles. Le chuchotement que ces êtres échangeaient était composite. Tantôt un mot castillan, tantôt un mot allemand, tantôt un mot français, parfois du gallois, parfois du basque. C'était un patois, à moins que ce ne fût un argot. Il paraissait être de toutes les nations et de la même bande. L'équipage était probablement des leurs. Il y avait de la connivence dans cet embarquement. Cette troupe bariolée semblait être une compagnie de camarades, peut-être un tas de complices. On ne perdait pas le temps. C'était un passage continuel du rivage à la barque et de la barque au rivage. Chacun prenait sa part de la besogne. L'un portait un sac, l'autre un coffre. Les femmes, possibles ou probables dans cette promiscuité, travaillaient comme les autres. On surchargeait l'enfant. Si cet enfant avait dans ce groupe sa mère et son père, cela était douteux. Aucun signe de vie ne lui était donné. On le faisait travailler, rien de plus. Il paraissait non un enfant dans une famille, mais un esclave dans une tribu. Il servait tout le monde, et personne ne lui parlait. Du reste, il se dépêchait, et, comme toute cette troupe obscure dont il faisait partie, il semblait n'avoir qu'une pensée, s'embarquer bien vite. Savait-il pourquoi ? Probablement non. Il se hâtait machinalement, parce qu'il voyait les autres se hâter. L'ourque était pontée. L'arrimage du chargement dans la cale fut promptement exécuté, le moment de prendre le large arriva. La dernière caisse avait été portée sur le pont. Il n'y avait plus à embarquer que les hommes. Les deux de cette troupe qui semblaient les femmes étaient déjà à bord. Six, dont l'enfant, étaient encore sur la plateforme basse de la falaise. Le mouvement de départ se fit dans le navire, le patron saisit la barre, un matelot prit une hache pour trancher le câble d'amarre, tranchée, signe de hâte. Quand on a le temps, on dénoue. Andamos, dit à demi-voix celui des six qui paraissait le chef et qui avait des paillettes sur ses guenilles. L'enfant se précipita vers la planche pour passer le premier. Comme il y mettait le pied, deux des hommes se ruant au risque de le jeter à l'eau entrèrent avant lui. Un troisième l'écarta du coude et passa, le quatrième le repoussa du poing et suivit le troisième, le cinquième, qui était le chef, bondit, plutôt qu'il n'entra dans la barque, et, en y sautant, poussa du talon la planche qui tomba à la mer. Un coup de hache coupa la mare, la barre du gouvernail vira, le navire quitta le rivage, et l'enfant resta à terre. L'enfant demeura immobile sur le rocher, l'œil fixe. Il n'appela point. Il ne réclama point. C'était inattendu pourtant. Il ne dit pas une parole. Il y avait dans le navire le même silence. Pas un cri de l'enfant vers ses hommes, pas un adieu de ses hommes à l'enfant. Il y avait, des deux parts, une acceptation muette de l'intervalle grandissant. C'était comme une séparation de man au bord d'un Styx. L'enfant, comme cloué sur la roche que la marée haute commençait à baigner, regarda la barque s'éloigner. On eût dit qu'il comprenait. Quoi ? Que comprenait-il ? L'ombre. Un moment après, l'ours atteignit le détroit de sortie de la crique et s'y engagea. On aperçut la pointe du mât sur le ciel clair au-dessus des blocs fendus entre lesquels serpentait le détroit comme entre deux murailles. Cette pointe erra au haut des roches et sembla s'y enfoncer. On ne la vit plus. C'était fini. La barque avait pris la mer. L'enfant regarda cet évanouissement. Il était étonné, mais rêveur. Sa stupéfaction se compliquait d'une sombre constatation de la vie. Il semblait qu'il y eût de l'expérience dans cet être commençant. Peut-être jugeait-il déjà ? L'épreuve, arrivée trop tôt, construit parfois au fond de la réflexion obscure des enfants, on ne sait quelle balance redoutable où ces pauvres petites âmes pèsent Dieu. Se sentant innocent, il consentait. Pas une plainte. L'irréprochable ne reproche pas. Cette brusque élimination qu'on faisait de lui ne lui arracha pas même un geste. Il eut une sorte de roidissement intérieur. Sous cette subite voix du fait du sort, qui semblait mettre le dénouement de son existence presque avant le début, l'enfant ne fléchit pas. Il reçut ce coup de foudre, debout. Il était évident pour qui eût vu son étonnement, sans accablement, que, dans ce groupe qu'il abandonnait, rien ne l'aimait. Et il n'aimait rien. Pensif, il oubliait le froid. Tout à coup, l'eau lui mouilla les pieds. La marée montait. Une haleine lui passa dans les cheveux. La bise s'élevait. Il frissonna. Il eut de la tête aux pieds ce tremblement qui est le réveil. Il jeta les yeux autour de lui. Il était seul. Il n'y avait pas eu pour lui jusqu'à ce jour sur la terre d'autres hommes que ceux qui étaient en ce moment dans l'ourque. Ces hommes venaient de se dérober. Ajoutons, chose étrange à énoncer, que ces hommes, les seuls qu'il connut, lui étaient inconnus. Il n'eût pu dire qui étaient ces hommes. Son enfance s'était passée parmi eux sans qu'il eût la conscience d'être des leurs. Il leur était juxtaposé, rien de plus. Il venait d'être oublié par eux. Il n'avait pas d'argent sur lui. Pas de souliers aux pieds, à peine un vêtement sur le corps, pas même un morceau de pain dans sa poche. C'était l'hiver. C'était le soir. Il fallait marcher plusieurs lieues avant d'atteindre une habitation humaine. Il ignorait où il était. Il ne savait rien. Sinon que ceux qui étaient venus avec lui au bord de cette mer s'en étaient allés sans lui. Il se sentait mis hors de la vie. Il sentait l'homme manquer sous lui. Il avait 10 ans. L'enfant était dans un désert, entre des profondeurs où il voyait monter la nuit et des profondeurs où il entendait gronder les vagues. Il étira ses petits bras maigres et bâilla. Puis, brusquement, comme quelqu'un qui prend son parti, hardi et se dégourdissant, et avec une agilité d'écureuil, de clown peut-être, il tourna le dos à la crique et se mit à monter le long de la falaise. Il escalada le sentier, le quitta, y revint, alerte et se risquant. Il se hâtait maintenant vers la terre. On eût dit qu'il avait un itinéraire. Il n'avait nulle part pourtant. Il se hâtait sans but, espèce de fugitif devant la destinée. Gravir est de l'homme, grimper est de la bête. Il gravissait et grimper. Les escarpements de Portland étaient tournés au sud. Il n'y avait presque pas de neige dans le sentier. L'intensité du froid avait d'ailleurs fait de cette neige une poussière, assez incommode aux marcheurs. L'enfant s'en tirait. Sa veste d'homme, trop large, était une complication et le gênait. De temps en temps, il rencontrait sur un surplomb ou dans une déclivité un peu de glace qui le faisait tomber. Il se raccrochait à une branche sèche ou à une saillie de pierre après avoir pendu quelques instants sur le précipice. Une fois, il eut affaire à une veine de brèche qui s'écroula brusquement sous lui, l'entraînant dans sa démolition. Ces effondrements de la brèche sont perfides. L'enfant eut, durant quelques secondes, le glissement d'une tuile sur un toit. Il dégringola jusqu'à l'extrême bord de la chute. Une touffe d'herbe empoignée à propos le sauva. Il ne cria pas plus devant l'abîme qu'il n'avait crié devant les hommes. Il s'affermit et remonta silencieux. L'escarpement était haut. Il y eut ainsi quelques péripéties. Le précipice s'aggravait de l'obscurité. Cette roche verticale n'avait pas de fin. Elle reculait devant l'enfant dans la profondeur d'en haut. À mesure que l'enfant montait, le sommet semblait monter. Tout en grimpant, il considérait cet entablement noir posé comme un barrage entre le ciel et lui. Enfin, il arriva. Il sauta sur le plateau. On pourrait presque dire qu'il prit terre, car il sortait du précipice. À peine fut-il hors de l'escarpement qu'il grelotta. Il sentit à son visage la bise, cette morsure de la nuit. L'aigre vent du nord-ouest soufflait. Il serra contre sa poitrine sa serpillière de matelot. C'était un bon vêtement. Cela s'appelle, en langage du bord, un suroît, parce que cette sorte de vareuse-là est peu pénétrable au puits du sud-ouest. L'enfant, parvenu sur le plateau, s'arrêta, posa fermement ses deux pieds nus sur le sol gelé et regarda. Derrière lui la mer, devant lui la terre, au-dessus de sa tête le ciel. Mais un ciel sans astres, une brume opaque masquait le zénith. En arrivant au haut du mur de rocher, il se trouvait tourné du côté de la terre. Il la considéra. Elle était devant lui à perte de vue, plate, glacée, couverte de neige. Quelques touffes de bruyère frissonnaient, on ne voyait pas de route, rien. Pas même une cabane de berger. On apercevait ça et là des tournoiements de spirales blêmes qui étaient des tourbillons de neige fines arrachés de terre par le vent et s'envolant. Une succession d'ondulations de terrain, devenue tout de suite brumeuse, se plissait dans l'horizon. Les grandes plaines ternes se perdaient sous le brouillard blanc. Silence profond. Cela s'élargissait comme l'infini et se taisait comme la tombe. L'enfant se retourna vers la mer. La mer, comme la terre, était blanche. L'une de neige, l'autre d'écume. Rien de mélancolique comme le jour que faisait cette double blancheur. Certains éclairages de la nuit ont des duretés très nettes. La mer était de l'acier, les falaises étaient de l'ébène. De la hauteur où était l'enfant, la baie de Portland apparaissait presque en carte géographique, blafarde dans son demi-cercle de collines. Il y avait du rêve dans ce paysage nocturne. Une rondeur pâle engagée dans un croissant obscur. La lune offre quelquefois cet aspect. D'un cap à l'autre, dans toute cette côte, on n'apercevait pas un seul scintillement indiquant un foyer allumé, une fenêtre éclairée, une maison vivante. Absence de lumière sur la terre comme au ciel, pas une lampe en bas, pas un astre en haut. Les larges aplanissements des flots dans le golfe avaient ça et là des soulèvements subis. Le vent dérangeait et fronçait cette nappe. L'ourc était encore visible dans la baie, fuyant. C'était un triangle noir qui glissait sur cette lividité. Au loin, confusément, les étendues d'eau remuaient dans le clair-obscur sinistre de l'immensité. La Matutina filait vite. Elle décroissait de minute en minute, rien de rapide comme la fonte d'un navire dans les lointains de la mer. À un certain moment, elle alluma son fanal de proue. Il est probable que l'obscurité se faisait inquiétante autour d'elle et que le pilote sentait le besoin d'éclairer la vague. Ce point lumineux, scintillation aperçue de loin, adhérait lugubrement à sa haute et longue forme noire. On eût dit un linceul, debout et en marche au milieu de la mer, sous lequel rôderait quelqu'un qui aurait à la main une étoile. Il y avait dans l'air une imminence d'orage. L'enfant ne s'en rendait pas compte, mais un marin eut tremblé. C'était cette minute d'anxiété préalable où il semble que les éléments vont devenir des personnes et qu'on va assister à la transfiguration mystique du vent en aquilon. La mer va être océan. Les forces vont se révéler volonté. Se comprend pour une chose est une âme. On va le voir. De là l'horreur. L'âme de l'homme redoute cette confrontation avec l'âme de la nature. Un chaos allait faire son entrée. Le vent, froissant le brouillard et échafaudant les nuées derrière, poser le décor de ce drame terrible de la vague de l'hiver qu'on appelle une tempête de neige. Les symptômes des navires rentrant se manifester. Depuis quelques moments, la rade n'était plus déserte. À chaque instant surgissaient de derrière les caps des barques inquiètes se hâtant vers le mouillage. Les unes doublaient le Portland Bill, les autres le St. Albans Head. Du plus loin, du plus extrême lointain, des voiles venaient. C'est à qui se réfugierait ? Au sud, l'obscurité s'épaississait et les nuages pleins de nuit se rapprochaient de la mer. La pesanteur de la tempête en surplomb et pendante apaisait lugubrement le flot. Ce n'était point le moment de partir. L'Ourcq était partie cependant. Elle avait mis le cap au sud. Elle était déjà hors du golfe et en haute mer. Tout à coup, la bise souffla en rafale. La Matutina, qu'on distinguait encore très nettement, se couvrit de toiles, comme résolu à profiter de l'ouragan. C'est le norouâ, qu'on nommait jadis vent de galerne, bise sournoise et en colère. Le norouâ eut tout de suite sur l'Ourcq un commencement d'arrachement. L'Ourcq, prise de côté, pencha, mais n'hésita pas, et continua sa course vers le large. Ceci indiquait une fuite plutôt qu'un voyage, moins de crainte de la mer que de la terre, et plus de soucis de la poursuite des hommes que de la poursuite des vents. L'Ourcq, passant par tous les degrés de l'amoindrissement, s'enfonça dans l'horizon. La plus petite étoile qu'elle traînait dans l'ombre pâlit. L'Ourcq, de plus en plus amalgamé à la nuit, disparut. Cette fois, c'était pour jamais. Du moins, l'enfant parut le comprendre. Il cessa de regarder la mer. Ses yeux se reportèrent sur les plaines, les landes, les collines, vers les espaces où il n'était pas impossible peut-être de faire une rencontre vivante. Il se mit en marche dans cet inconnu. Qu'était-ce que cette espèce de bande en fuite laissant derrière elle cet enfant? Ces évadés étaient-ils des comprachicos? On a vu plus haut le détail des mesures prises par Guillaume III et votées au Parlement contre les malfaiteurs, hommes et femmes, dits comprachicos, dits comprapequeños, dits chelas. Il y a des législations dispersantes. Ce statut tombant sur les comprachicos détermina une fuite générale, non seulement des comprachicos, mais des vagabonds de toutes sortes. Ce fut à qui se déroberait et s'embarquerait. La plupart des comprachicos retournèrent en Espagne. Beaucoup, nous l'avons dit, étaient basques. Cette loi protectrice de l'enfance eut un premier résultat bizarre. Un subit délaissement d'enfants. Ce statut pénal produisit immédiatement une foule d'enfants trouvés, c'est-à-dire perdus. Rien de plus aisé à comprendre. Toute troupe nomade contenant un enfant était suspecte. Le seul fait de la présence de l'enfant l'a dénoncé. Ce sont probablement des comprachicos. Telle était la première idée du shérif, du prévôt, du comptable. De là des arrestations et des recherches. Des gens simplement misérables, réduits à rôder et à mendier, étaient pris de la terreur de passer pour comprachicos. Bien que ne l'étant pas. Mais les faibles sont peu rassurés sur les erreurs possibles de la justice. D'ailleurs, les familles vagabondes sont habituellement effarées. Ce qu'on reprochait, comprachicos, c'était l'exploitation des enfants d'autrui. Mais les promiscuités de la détresse et de l'indigence sont telles qu'il eût été parfois malaisé à un père et à une mère de constater que leur enfant était leur enfant. D'où tenez-vous cet enfant ? Comment prouver qu'on le tient de Dieu ? L'enfant devenait un danger. On s'en défaisait. Fuir seul sera plus facile. Le père et la mère se décidaient à le perdre tantôt dans un bois, tantôt sur une grève, tantôt dans un puits. On trouva dans les citernes des enfants noyés. Ajoutons que les comprachicos étaient, à l'imitation de l'Angleterre, traqués désormais par toute l'Europe. Le branle de les poursuivre était donné. Rien n'est tel qu'un grelot attaché. Il y avait désormais émulation de toutes les polices pour les saisir et l'alguazil n'était pas moins au guet que le constable. On pouvait lire encore, il y a 23 ans, sur une pierre de la porte d'Otero, une inscription intraduisible, le code dont les mots braves l'honnêteté, où est du reste marqué par une forte différence pénale la nuance entre les marchands d'enfants et les voleurs d'enfants. Voici l'inscription, en castillan un peu sauvage. Aquí quedan las orejas de los comprachicos y las bolsas de los robaniños mientras que se van ellos al trabajo de mar. On le voit, les oreilles, etc. Confisqués n'empêchaient point les galères. De là un sauf-qui-peut parmi les vagabonds. Ils partaient effrayés, ils arrivaient tremblants. sur tout le littoral d'Europe, on surveillait les arrivages furtifs. Pour une bande, s'embarquer avec un enfant était impossible, car débarquer avec un enfant était périlleux. Perdre l'enfant, c'était plutôt fait. Par qui l'enfant qu'on vient d'entrevoir dans la pénombre des solitudes de Portland était-il rejeté? Selon toute apparence, par des comprachicos. Il pouvait être environ 7 heures du soir. Le vent, maintenant, diminuait, signe de recrudescence prochaine. L'enfant se trouvait sur l'extrême plateau sud de la pointe de Portland. Portland est une presqu'île, mais l'enfant ignorait ce qu'une presqu'île était et ne savait pas même ce mot, Portland. Il ne savait qu'une chose, c'est qu'on peut marcher jusqu'à ce qu'on tombe. Une notion est un guide. Il n'avait pas de notion. On l'avait amené là et laissé là. On et là, ces deux énigmes représentaient toute sa destinée. On était le genre humain. Là était l'univers. Il n'avait ici-bas absolument pas d'autre point d'appui que la petite quantité de terre où il posait le talon. Terre dure et froide à la nudité de ses pieds. Dans ce grand monde crépusculaire ouvert de toutes parts, qu'y avait-il pour cet enfant ? Rien. Il marchait vers ce rien. L'immense abandon des hommes était autour de lui. Il traversa diagonalement le premier plateau, puis un second, puis un troisième. À l'extrémité de chaque plateau, l'enfant trouvait une cassure de terrain. La pente était quelquefois abrupte, mais toujours courte. Les hautes plaines nues de la pointe de Portland ressemblent à de grandes dalles à demi engagées les unes sous les autres. Le côté sud semble entrer sous la plaine précédente et le côté nord se relève sur la suivante. Cela fait des ressauts que l'enfant franchissait agilement. De temps en temps, il suspendait sa marche et semblait tenir conseil avec lui-même. La nuit devenait très obscure. Son rayon visuel se raccourcissait. Il ne voyait plus qu'à quelques pas. Tout à coup, il s'arrêta. Écouta un instant, fit un imperceptible hochement de tête satisfait, tourna vivement et se dirigea vers une éminence de hauteur médiocre qu'il apercevait confusément à sa droite, au point de la plaine le plus rapproché de la falaise. Il y avait sur cette éminence une configuration qui semblait dans la brume un arbre. L'enfant venait d'entendre de ses côtés un bruit qui n'était ni le bruit du vent ni le bruit de la mer. Ce n'était pas non plus un cri d'animaux. Il pensa qu'il y avait là quelqu'un. En quelques enjambées, il fut au pied du monticule. Il y avait quelqu'un, en effet. Ce qui était indistinct au sommet de l'éminence était maintenant visible. C'était quelque chose comme un grand bras sortant de terre tout droit. À l'extrémité supérieure de ce bras, une sorte d'index, soutenu en dessous par le pouce, s'allongeait horizontalement. Ce bras, ce pouce et cet index dessinait sur le ciel une équerre. Au point de jonction de cette espèce d'index et de cette espèce de pouce, il y avait un fil auquel pendait on ne sait quoi de noir et d'informe. Ce fil, remué par le vent, faisait le bruit d'une chaîne. C'était ce bruit que l'enfant avait entendu. Le fil était, vu de près, ce que son bruit annonçait. Une chaîne. Chaîne marine aux anneaux à demi pleins. Par cette mystérieuse loi d'amalgame qui dans la nature entière superpose les apparences aux réalités, le lieu, l'heure, la brume, la mer tragique, les lointains tumultes visionnaires de l'horizon s'ajoutaient à cette silhouette et la faisaient énorme. La masse liée à la chaîne offrait la ressemblance d'une gaine. Elle était emmaillotée comme un enfant et longue comme un homme. Il y avait en haut, une rondeur autour de laquelle l'extrémité de la chaîne s'enroulait. La gaine se déchiquetait à sa partie inférieure, des décharnements sortaient de ses déchirures. Une brise faible agitait la chaîne, et ce qui pendait à la chaîne vacillait doucement. Cette masse passive obéissait au mouvement diffus des étendues. Elle avait on ne sait quoi de panique. L'horreur qui disproportionne les objets, lui ôtait presque la dimension en lui laissant le contour. C'était une condensation de noirceur et un aspect. Il y avait de la nuit dessus et de la nuit dedans. Cela était en proie au grandissement sépulcral. Les crépuscules, les levées de lune, les descentes de constellations derrière les falaises, les flottaisons de l'espace, les nuages, toute la rose des vents avaient fini par entrer dans la composition de ce néant visible. Cette espèce de bloc quelconque suspendu dans le vent participait de l'impersonnalité éparse, au loin sur la mer et dans le ciel, et les ténèbres achevaient cette chose qui avait été un homme. C'était ce qui n'est plus. Être un reste, ceci échappe à la langue humaine. Ne plus exister et persister. Être dans le gouffre et dehors. Reparaître au-dessus de la mort comme insubmersible, il y a une certaine quantité d'impossible mêlée à de telles réalités. De là l'indicible. Cet être était un être. Ce témoin noir était un reste. Et un reste terrible. Reste de quoi ? De la nature d'abord, de la société ensuite. Zéro et total. L'inclémence absolue l'avait à sa discrétion. Les profonds oublis de la solitude l'environnaient. Il était livré aux aventures de l'ignoré. Il était sans défense contre l'obscurité qui en faisait ce qu'elle voulait. Il était à jamais le patient. Il subissait. Les ouragans étaient sur lui, lugubre fonction des souffles. Ce spectre était là au pillage. Il endurait cette voix de fée horrible, la pourriture en plein vent. Il était hors la loi du cercueil. Il avait l'anéantissement sans la paix. Il tombait en cendres l'été et en boue l'hiver. La mort doit avoir un voile. La tombe doit avoir une pudeur. Ici, ni pudeur, ni voile. La putréfaction cynique est en aveu. Il y a de l'effronterie à la mort, a montré son ouvrage. Elle fait insulte à toutes les sérénités de l'ombre quand elle travaille hors de son laboratoire, le tombeau. Cet être expiré était dépouillé. Dépouiller une dépouille, inexorable achèvement. Sa moelle n'était plus dans ses os, ses entrailles n'étaient plus dans son ventre, sa voix n'était plus dans son gosier. Un cadavre est une poche que la mort retourne et vide. S'il avait eu un moi, où ce moi était-il ? Là encore, peut-être, et c'était poignant à penser. Quelque chose d'errant autour de quelque chose d'enchaîné. Peut-on se figurer dans l'obscurité un linéament plus funèbre ? Il existe des réalités ici-bas qui sont comme des issues sur l'inconnu, par où la sortie de la pensée semble possible et où l'hypothèse se précipite. La conjecture a son compelle intrare. Si l'on passe en certains lieux et devant certains objets, on ne peut faire autrement que de s'arrêter en proie au songe et de laisser son esprit s'avancer là-dedans. Il y a dans l'invisible d'obscures portes entrebâillées. Nul n'eût pu rencontrer ce trépassé sans méditer. La vaste dispersion l'usait silencieusement. Il avait eu du sang qu'on avait bu, de la peau qu'on avait mangée, de la chair qu'on avait volée. Rien n'avait passé sans lui prendre quelque chose. Décembre lui avait emprunté du froid, minuit de l'épouvante, le fer de la rouille, la peste des miasmes, la fleur des parfums. Sa lente désagrégation était un péage, péage du cadavre à la rafale, à la pluie, à la rosée, aux reptiles, aux oiseaux. Toutes les sombres mains de la nuit avaient fouillé ce mort. C'était on ne sait quel étrange habitant, l'habitant de la nuit. Il était dans une plaine et sur une colline, et il n'y était pas. Il était palpable et évanoui. Il était de l'ombre complétant les ténèbres. Après la disparition du jour, dans la vaste obscurité silencieuse, il devenait lugubrement d'accord avec tout. Il augmentait, rien que parce qu'il était là, le deuil de la tempête et le calme des astres. L'inexprimable, qui est dans le désert, se condensait en lui. Épave d'un destin inconnu, il s'ajoutait à toutes les farouches réticences de la nuit. Il y avait dans son mystère une vague réverbération de toutes les énigmes. On sentait autour de lui comme une décroissance de vie allant jusqu'aux profondeurs. Il y avait dans les étendues environnantes une dimension de certitude et de confiance, le frisson des broussailles et des herbes, une mélancolie désolée, une anxiété, où il semblait qu'il y eût de la conscience, appropriée tragiquement tout le paysage à cette figure noire suspendue à cette chaîne. La présence d'un spectre dans un horizon est une aggravation à la solitude. Il était simulacre. Ayant sur lui les souffles qui ne s'apaisent pas, il était l'implacable. Le tremblement éternel le faisait terrible. Il semblait, dans les espaces, un centre, ce qui est effrayant à dire, et quelque chose d'immense s'appuyait sur lui. Qui sait ? Peut-être l'équité entrevue et bravée qui est au-delà de notre justice. Il y avait, dans sa durée hors de la tombe, de la vengeance des hommes et de sa vengeance à lui. Il faisait, dans ce crépuscule et dans ce désert, une attestation. Il était la preuve de la matière inquiétante, parce que la matière devant laquelle on tremble est de la ruine d'âme. Pour que la matière morte nous trouble, il faut que l'esprit y ait vécu. Il dénonçait la loi d'en bas et la loi d'en haut. Mis là par l'homme, il attendait Dieu. Au-dessus de lui flottaient, avec toutes les torsions indistinctes de la nuée et de la vague, les énormes rêveries de l'ombre. Derrière cette vision, il y avait on ne sait quelle occlusion sinistre. L'illimité, borné par rien, ni par un arbre, ni par un toit, ni par un passant, était autour de ce mort. Quand l'immanence surplombant sur nous, ciel, gouffre, vie, tombeau, éternité, apparaît patente, c'est alors que nous sentons tout inaccessible, tout défendu, tout muré. Quand l'infini s'ouvre, pas de fermeture plus formidable. L'enfant était devant cette chose, muet, étonné, les yeux fixes. Pour un homme, c'eût été un gibet. Pour l'enfant, c'était une apparition. Où l'homme eût vu le cadavre, l'enfant voyait le fantôme. Et puis il ne comprenait point. Les attractions d'abîme sont de toutes sortes. Il y en avait une en haut de cette colline. L'enfant fit un pas, puis deux. Il monta, tout en ayant envie de descendre. Et approcha, tout en ayant envie de reculer. Il vint, tout près, hardi et frémissant, faire une reconnaissance du fantôme. Parvenu sous le gibet, il leva la tête et examina. Le fantôme était goudronné. Il luisait çà et là. L'enfant distinguait la face. Elle était enduite de bitume, et ce masque qui semblait visqueux et gluant se modelait dans les reflets de la nuit. L'enfant voyait la bouche, qui était un trou, le nez, qui était un trou, et les yeux, qui étaient des trous. Le corps était enveloppé comme ficelé dans une grosse toile imbibée de naphte. La toile s'était moisie et rompue, un genou passé à travers. Une crevasse laissait voir les côtes. Quelques parties étaient cadavres, d'autres squelettes. Le visage était couleur de terre. Des limaces qui avaient erré dessus y avaient laissé des vagues rubans d'argent. La toile, collée aux os, offrait des reliefs, comme une robe de statue. Le crâne, fendu et fêlé, avait l'hiatus d'un fruit pourri. Les dents étaient demeurées humaines. Elles avaient conservé le rire. Un reste de cri semblait bruire dans la bouche ouverte. Il y avait quelques poils de barbe sur les joues. La tête, penchée, avait un air d'attention. On avait fait récemment des réparations. Le visage était goudronné de frais, ainsi que le genou qui sortait de la toile et les côtes. En bas, les pieds passaient. Juste dessous, dans l'herbe, on voyait deux souliers, devenus informes dans la neige et sous les pluies. Ces souliers étaient tombés de ce mort. L'enfant, pieds nus, regarda ses souliers. Le vent, de plus en plus inquiétant, avait de ces interruptions qui font partie des apprêts d'une tempête. Il avait tout à fait cessé depuis quelques instants. Le cadavre ne bougeait plus. La chaîne avait l'immobilité du fil à plomb. Comme tous les nouveaux venus dans la vie, et en tenant compte de la pression spéciale de sa destinée, l'enfant avait sans nul doute en lui cet éveil d'idées propres aux jeunes années qui tâche d'ouvrir le cerveau et qui ressemble au coup de bec de l'oiseau dans l'œuf. Mais tout ce qu'il y avait dans sa petite conscience en ce moment se résolvait en stupeur. L'excès de sensations, c'est l'effet du trop d'huile. arrive à l'étouffement de la pensée. Un homme se fût fait des questions, l'enfant ne s'en faisait pas. Il regardait. Le goudron donnait à cette face un aspect mouillé. Des gouttes de bitume figées dans ce qui avait été les yeux ressemblaient à des larmes. Du reste, grâce à ce bitume, le dégât de la mort était visiblement ralenti, sinon annulé, et réduit au moins de délabrement possible. Ce que l'enfant avait devant lui était une chose dont on avait soin. Cet homme était évidemment précieux. On n'avait pas tenu à le garder vivant, mais on tenait à le conserver mort. Le gibet était vieux, vermoulu, quoique solide, et servait depuis de longues années. C'était un usage immémorial en Angleterre de goudronner les contrebandiers. On les pendait au bord de la mer, on les enduisait de bitume et on les laissait accrocher. Les exemples veulent le plein air, et les exemples goudronnés se conservent mieux. Ce goudron était de l'humanité. On pouvait de cette manière renouveler les pendus moins souvent. On mettait des potences de distance en distance sur la côte, comme de nos jours les réverbères. Le pendu tenait lieu de lanterne. Il éclairait à sa façon ses camarades, les contrebandiers. Les contrebandiers, de loin, en mer, apercevaient les gibets. En voilà un, premier avertissement. Puis un autre, deuxième avertissement. Cela n'empêchait point la contrebande, mais l'ordre se compose de ces choses-là. Cette mode a duré en Angleterre jusqu'au commencement de ce siècle. En 1822, on voyait encore devant le château de Douvres trois pendus vernis. Du reste, le procédé conservateur ne se bornait point aux contrebandiers. L'Angleterre tirait le même parti des voleurs, des incendiaires et des assassins. John Painter, qui mit le feu au magasin maritime de Portsmouth, fut pendu et goudronné en 1776. L'abbé Coyer, qui l'appelle Jean le peintre, le revit en 1777. John Painter était accroché et enchaîné au-dessus de la ruine qu'il avait faite et rebadigeonné de temps en temps. Ce cadavre dura, on pourrait presque dire vécu, près de 14 ans. Il faisait encore un bon service en 1788. En 1790, pourtant, on dut le remplacer. Les Égyptiens faisaient cas de la momie de roi. La momie de peuple, à ce qu'il paraît, est peut-être utile aussi. Le vent, ayant beaucoup de prise sur le monticule, en avait enlevé toute la neige. L'herbe y reparaissait, avec quelques chardons, ça et là. La colline était couverte de ce gazon marin dru et ras qui fait ressembler le haut des falaises à du drap vert. Sous la potence, au point même, au-dessus duquel pendaient les pieds du supplicié, il y avait une touffe haute et épaisse, surprenante sur ce sol maigre. Les cadavres émiettés là depuis des siècles expliquaient cette beauté de l'herbe. La terre se nourrit de l'homme. Une fascination lugubre tenait l'enfant. Il demeurait là, béant. Il ne baissa le front qu'un moment pour une ortie qui lui piquait les jambes et qui lui fit la sensation d'une bête. Puis il se redressa. Il regardait au-dessus de lui cette face qui le regardait. Elle le regardait d'autant plus qu'elle n'avait pas d'yeux. C'était du regard répandu, une fixité indicible où il y avait de la lueur et des ténèbres, et qui sortait du crâne et des dents aussi bien que des arcades sourcilières vides. Toute la tête du mort regarde, et c'est terrifiant. Pas de prunelles, et l'on se sent vu. Horreur des larves. Peu à peu, l'enfant devenait lui-même terrible. Il ne bougeait plus, la torpeur le gagnait, il ne s'apercevait pas qu'il perdait conscience, il s'engourdissait et sans qu'il osait. L'hiver le livrait silencieusement à la nuit. Il y a du traître dans l'hiver. L'enfant était presque statue. La pierre du froid entrait dans ses os. L'ombre, ce reptile, se glissait en lui. L'assoupissement qui sort de la neige monte dans l'homme comme une marée obscure. L'enfant était lentement envahi par une immobilité ressemblant à celle du cadavre. Il allait s'endormir. Dans la main du sommeil, il y a le doigt de la mort. L'enfant se sentait saisi par cette main. Il était au moment de tomber sous le gibet, il ne savait déjà plus s'il était debout. La fin toujours immanente, aucune transition entre être et ne plus être. La rentrée au creuset, le glissement possible à toute minute, c'est ce précipice-là qui est la création. Encore un instant, et l'enfant et le trépassé, la vie en ébauche et la vie en ruine allaient se confondre dans le même effacement. Le spectre eut l'air de le comprendre et de ne pas le vouloir. Tout à coup, il se mit à remuer. On eût dit qu'il avertissait l'enfant. C'était une reprise de vent qui soufflait. Rien d'étrange comme ce mort en mouvement. Le cadavre au bout de la chaîne, poussé par le souffle invisible, prenait une attitude oblique. Monter à gauche, puis retomber, remonter à droite, et retomber, et remonter avec la lente et funèbre précision d'un battement. Va et vient, farouche. On eût cru voir dans les ténèbres le balancier de l'horloge de l'éternité. Cela dura quelque temps ainsi. L'enfant, devant cette agitation du mort, sentait un réveil et, à travers son refroidissement, avait assez nettement peur. La chaîne, à chaque oscillation, grinçait avec une régularité hideuse. Elle avait l'air de reprendre haleine, puis recommencer. Ce grincement imitait un chant de cigale. Les approches d'une bourrasque produisent de subites enflures du vent. Brusquement, la brise devint bise. L'oscillation du cadavre s'accentua lugubrement. Ce ne fut plus du balancement, ce fut de la secousse. La chaîne qui grinçait cria. Il sembla que ce cri était entendu. Si c'était un appel, il fut obéi. Du fond de l'horizon, un grand bruit accourut. C'était un bruit d'ailes. Un incident survenait, l'orageux incident des cimetières et des solitudes, l'arrivée d'une troupe de corbeaux. Des taches noires volantes piquèrent le nuage, percèrent la brume, grossirent, approchèrent, s'amalgamèrent, s'épaissirent, se hâtant vers la colline, poussant des cris. C'était comme la venue d'une légion. Cette vermine ailée des ténèbres s'abattit sur le gibet. L'enfant, effaré, recula. Les essaims obéissent à des commandements. Les corbeaux s'étaient groupés sur la potence. Pas un n'était sur le cadavre. Ils se parlaient entre eux. Le croassement était affreux. Hurler, siffler, rugir, c'est de la vie. Le croassement est une acceptation satisfaite de la putréfaction. On croit entendre le bruit qui fait le silence du sépulcre en se brisant. Le croassement est une voie dans laquelle il y a de la nuit. L'enfant était glacé, plus encore par l'épouvante que par le froid. Les corbeaux se turent. Un d'eux sauta sur le squelette. Ce fut un signal. Tous se précipitèrent. Il y eut une nuée d'ailes, puis toutes les plumes se refermèrent et le pendu disparut dans un fourmillement d'ampoules noires remuant dans l'obscurité. En ce moment, le mort se secoua. Était-ce lui ? Était-ce le vent ? Il eut un bond effroyable. L'ouragan qui s'élevait lui venait en aide. Le fantôme entra en convulsion. C'était la rafale déjà soufflant à plein poumon qui s'emparait de lui et qui l'agitait dans tous les sens. Il devint horrible. Il se mit à se démener. Pantin épouvantable ayant pour ficelle la chaîne d'un gibet. Quelques parodistes de l'ombre avaient saisi son fil et joué de cette momie. Elle tourna et sauta comme prête à se disloquer. Les oiseaux, effrayés, s'envolèrent. Ce fut comme un rejaillissement de toutes ces bêtes infâmes. Puis ils revinrent. Alors une lutte commença. Le mort sembla pris d'une vie monstrueuse. Les souffles le soulevaient comme s'il allait l'emporter. On eût dit qu'il se débattait, qu'il faisait l'effort pour s'évader. Son carcan le retenait. Les oiseaux répercutaient tous ses mouvements, reculant, puis se ruant, effarouchés et acharnés. D'un côté, une étrange fuite essayée. De l'autre, la poursuite d'un enchaîné. Le mort, poussé par tous les spasmes de la bise, avait des soubresauts, des chocs, des accès de colère. Allait, venait, montait, tombait, refoulant l'essaim éparpillé. Le mort était massue, l'essaim était poussière. La féroce volée assaillante ne lâchait pas prise et s'opiniâtrait. Le mort, comme saisi de folie sous cette meute de bec, multipliait dans le vide ses frappements aveugles semblables au coup d'une pierre liée à une fronde. Par moments, il avait sur lui toutes les griffes et toutes les ailes, puis rien. C'était des évanouissements de la horde, tout de suite suivis de retours furieux. Effrayant supplice continuant après la vie. Les oiseaux semblaient frénétiques. Les soupiraux de l'enfer doivent donner passage à des essaims pareils. Coups d'ongles, coups de bec, croassement, arrachement de lambeaux qui n'étaient plus de la chair, craquement de la potence, froissement du squelette, cliquetis du ferraille, cris de la rafale, tumulte, pas de lutte plus lugubre, une lémure contre des démons, sorte de combat spectre. Parfois, la bise redoublant, le pendu pivotait sur lui-même, faisant face à l'essaim de tous côtés, à la fois paraissait vouloir courir après les oiseaux, et l'on eût dit que ses dents tâchaient de mordre. Il avait le vent pour lui et la chaîne contre lui, comme si des dieux noirs s'en mêlaient. L'ouragan était de la bataille. Le mort se tordait, la troupe d'oiseaux roulait sur lui en spirale, c'était un tournoiement dans un tourbillon. On entendait en bas un grondement immense, qui était la mer. L'enfant voyait ce rêve. Subitement, il se mit à trembler de tous ses membres. Un frisson ruissela le long de son corps. Il chancela, tressaillit, faillit tomber, se retourna, pressa son front de ses deux mains, comme si le front était un point d'appui, et, hagard, les cheveux au vent, descendant la colline à grands pas, les yeux fermés, presque fantôme lui-même, il prit la fuite, laissant derrière lui ce tourment dans la nuit. Il courut, jusqu'à essoufflement, au hasard, éperdu, dans la neige, dans la plaine, dans l'espace. Cette fuite le réchauffa. Il en avait besoin. Sans cette course et sans cette épouvante, il était mort. Quand l'haleine lui manqua, il s'arrêta. Mais il n'osa point regarder en arrière. Il lui semblait que les oiseaux devaient le poursuivre, que le mort devait avoir dénoué sa chaîne, était probablement en marche du même côté que lui, et que sans doute le gibet lui-même descendait la colline courant après le mort. Il avait peur de voir cela s'il se retournait. Lorsqu'il eut repris un peu haleine, il se remit à fuir. Se rendre compte des faits n'est point de l'enfance. Il percevait des impressions à travers le grossissement de l'effroi, mais sans les lier dans son esprit et sans conclure. Il allait n'importe où, ni comment. Il courait avec l'angoisse et la difficulté du songe. Depuis près de 3 heures qu'il était abandonné, sa marche en avant, tout en restant vague, avait changé de but. Auparavant, il était en quête. À présent, il était en fuite. Il n'avait plus faim, ni froid. Il avait peur. Un instinct avait remplacé l'autre. Échapper était maintenant toute sa pensée. Échapper à quoi ? À tout. La vie lui paraissait de toutes parts autour de lui comme une muraille horrible. S'il eût pu s'évader des choses, il l'eût fait. Mais les enfants ne connaissent point ce bris de prison qu'on nomme le suicide. Il courait. Il courut un temps indéterminé. Mais l'haleine s'épuise, la peur s'épuise aussi. Tout à coup, comme saisi d'un soudain accès d'énergie et d'intelligence, il s'arrêta. On eût dit qu'il avait honte de se sauver. Il se roidit, frappa du pied, dressa résolument la tête et se retourna. Il n'y avait plus ni colline, ni gibet, ni vol de corbeau. Le brouillard avait repris possession de l'horizon. L'enfant poursuivit son chemin. Maintenant, il ne courait plus. Il marchait. Dire que cette rencontre d'un mort l'avait fait un homme, ce serait limiter l'impression multiple et confuse qu'il subissait. Il y avait dans cette impression beaucoup plus et beaucoup moins. Ce gibet, fort trouble dans ce rudiment de compréhension qui était sa pensée, restait pour lui une apparition. Seulement, une terreur domptée étant un affermissement, il se sentit plus fort. S'il eût été d'âge de se sonder, il eût trouvé en lui 1000 autres commencements de méditation, mais la réflexion des enfants est informe. Et tout au plus sent-il l'arrière-goût amer de cette chose obscure pour eux que l'homme, plus tard, appelle l'indignation. Ajoutons que l'enfant a ce don d'accepter très vite la fin d'une sensation. Les contours lointains et fuyants, qui font l'amplitude des choses douloureuses, lui échappent. L'enfant est défendu par sa limite, qui est la faiblesse, contre les émotions trop complexes. Il voit le fait, et peu de choses à côté. La difficulté de se contenter des idées partielles n'existe pas pour l'enfant. Le procès de la vie ne s'instruit que plus tard, quand l'expérience arrive avec son dossier. Alors il y a confrontation des groupes de faits rencontrés, l'intelligence renseignée est grandie compare, les souvenirs du jeune âge reparaissent sous les passions comme le palimpseste sous les ratures. Ces souvenirs sont des points d'appui pour la logique, et ce qui était vision dans le cerveau de l'enfant devient syllogisme dans le cerveau de l'homme. Du reste, l'expérience est diverse et tourne bien ou mal selon les natures. Les bons mûrissent, les mauvais pourrissent. L'enfant avait bien couru un quart de lieue et marché un autre quart de lieue. Tout à coup, il sentit que son estomac le tiraillait. Une pensée qui tout de suite éclipsa la hideuse apparition de la colline lui vint violemment. Manger. Il y a dans l'homme une bête. Heureusement, elle le ramène à la réalité. Mais quoi manger ? Mais où manger ? Mais comment manger ? Il tâta ses poches, machinalement, car il savait bien qu'elles étaient vides. Puis il hâta le pas. Sans savoir où il allait, il hâta le pas vers le logis possible. Cette foi à l'auberge fait partie des racines de la providence dans l'homme. Croire à un gîte, c'est croire en Dieu. Du reste, dans cette plaine de neige, rien qui ressemblât à un toit. L'enfant marchait, la lande continuait, nue à perte de vue. Il n'y avait jamais eu sur ce plateau d'habitation humaine. C'était au bas de la falaise, dans des trous de roche, que logeaient jadis, faute de bois pour bâtir des cabanes, les anciens habitants primitifs, qui avaient pour arme une fronde, pour chauffage la fiente de bœuf séché, pour religion l'idole Heil, debout dans une clairière à Dorchester, et pour industrie la pêche de ce faux corail gris que les Gallois appellent Pline et les Grecs Isidis Plocamos. L'enfant s'orientait du mieux qu'il pouvait. Toute la destinée est un carrefour. Le choix des directions est redoutable. Ce petit être avait de bonnes heures, avait de bonne heure l'option entre les chances obscures. Il avançait cependant, mais quoique ses jarrets semblassent d'acier, il commençait à se fatiguer. Pas de sentier dans cette plaine, s'il y en avait, la neige les avait effacés. D'instinct, il continuait à dévier vers l'est. Des pierres tranchantes lui avaient écorché les talons. S'il eût fait jour, on eût pu voir dans les traces qu'il laissait sur la neige des taches roses qui étaient son sang. Il ne reconnaissait rien. Il traversait le plateau de Portland du sud au nord, et il est probable que la bande avec laquelle il était venu, évitant les rencontres, l'avait traversée de l'ouest à l'est. Elle était vraisemblablement partie, dans quelques barques de pêcheurs ou de contrebandiers, d'un point quelconque de la côte d'Uscombe, telle que Sainte-Catherine Chap ou Swan Quay, pour aller à Portland, retrouver l'ourc qui l'attendait. Et elle avait dû débarquer dans une des anses de Weston pour aller se rembarquer dans une des creeks d'Easton. Cette direction était coupé en croix par celle que suivait maintenant l'enfant. Il était impossible qu'il reconnût son chemin. Le plateau de Portland, à çà et là de hautes ampoules ruinées brusquement par la côte et coupées à pic sur la mer. L'enfant errant arriva sur un de ces points culminants et s'y arrêta, espérant trouver plus d'indications dans plus d'espace, cherchant à voir. Il avait devant lui, pour tout horizon, une vaste opacité livide. Il l'examina avec attention, et sous la fixité de son regard, elle devient moins indistincte. Au fond d'un lointain pli de terrain vers l'est, au bas de cette lividité opaque, sorte d'escarpement mouvant et blême qui ressemblait à une falaise de la nuit, rampait et flottait de vagues lambeaux noirs, espèce d'arrachement diffus. Cette opacité blafarde, c'était du brouillard. Ces lambeaux noirs, c'était des fumées. Où il y a de la fumée, il y a des hommes. L'enfant se dirigea de ce côté. Il entrevoyait à quelque distance une descente, et au pied de la descente, parmi une configuration informe de rochers que la brume estompait, une apparence de bloc, de sable ou de langue de terre reliant probablement aux plaines de l'horizon le plateau qu'il venait de traverser. Il fallait évidemment passer par là. Il était arrivé en effet à l'isthme de Portland, alluvion diluvienne qu'on appelle Chess Hill. Il s'engagea sur le versant du plateau. La pente était difficile et rude. C'était, avec moins d'âpreté pourtant, le revers de l'ascension qu'il avait faite pour sortir de la crique. Toute montée se solde par une descente. Après avoir grimpé, il dégringolait. Il sautait d'un rocher à l'autre, au risque d'une entorse, au risque d'un écroulement dans la profondeur indistincte. Pour se retenir dans les glissements de la roche et de la glace, il prenait à poignée les longues lanières des landes et des ajoncs pleins d'épines et toutes ses pointes lui entraient dans les doigts. Par instants, il trouvait un peu de rampe douce et descendait en reprenant haleine, puis l'escarpement se refaisait, et pour chaque pas, il fallait un expédient. Dans les descentes du précipice, chaque mouvement est la solution d'un problème. Il faut être adroit, sous peine de mort. Ces problèmes, l'enfant les résolvait avec un instinct dont un singe eût pris note, et une science qu'un saltimbanque eût admirée. La descente était abrupte et longue. Il en venait à bout néanmoins. Peu à peu, il approchait de l'instant où il prendrait terre sur l'isthme entrevu. Par intervalles, tout en bondissant, ou en dévalant de rocher en rocher, il prêtait l'oreille, avec un dressement de dents attentif. Il écoutait au loin, à sa gauche, un bruit vaste et faible, pareil à un profond chant de clairons. Il y avait dans l'air en effet un remuement de souffle précédant cet effrayant vent boréal qu'on entend venir du pôle comme une arrivée de trompette. En même temps, l'enfant sentait par moments sur son front, sur ses yeux, sur ses joues, quelque chose qui ressemblait à des paumes de main froides se posant sur son visage. C'était de larges flocons glacés, ensemencés d'abord mollement dans l'espace, puis tourbillonnant, et annonçant l'orage de neige. L'enfant en était couvert. L'orage de neige qui, depuis plus d'une heure déjà, était sur la mer, commençait à gagner la terre. Il envahissait lentement les plaines. Il entrait, obliquement, par le nord-ouest, dans le plateau de Portland. Vous venez d'écouter un extrait de L'homme qui rit, écrit par Victor Hugo en 1869. Et vous écoutez à présent Les deux guitares de Opa Tsupa. Vous êtes sur La Rosée, troisième lundi de chaque mois, Radio Galère. 88.4. Et n'oublions jamais la réalité misérable dans laquelle la société, l'humanité, non sans périple et sans péripétie, s'est enfouie elle-même. Mais réalité foisonnante, ma foi, mais pas inévitable, non, pas inévitable. Alors à toi qui roules dans ta voiture, à toi qui sors du travail accompagné de ta solitude et de ton impuissance, nous n'avons rien à faire, nous ne pouvons rien faire, je n'ai rien à faire, je ne sais rien faire, je n'ai pas de solution, mais embrasse ton impuissance. Danse avec ta solitude. Embrasse ton impuissance. Danse avec ta solitude. Et par là peut-être que nous pourrons prendre la main des enfants, que nous pourrons prendre la main des vieillards qui vont partir, que nous pourrons prendre la main de ceux qui travaillent et dont les corps ont quitté le désir pour être productifs. Enfin peut-être, peut-être, comme dans un rêve, pourrons-nous faire des farandoles, des carnavals, des danses immenses. Nous ne serons peut-être plus humains mais qu'animal, mais qu'importe, une porte. Je dis n'importe quoi. Une mièvre poésie sur Radio Galère en ce lundi 18. Mais peut-être qu'une mièvre poésie vaut mieux que de sombres discours et de sombres élections, de sombres actions. Alors quitte à ne rien faire, dansons !
Maintenant, le foot, il y a quelque chose à dire. C'est pas comme les chansons, tu passes à radio, télévision. Paf, dans la gueule, hein, la foot. Pas m'emmerder, puis c'est tout. Face à la télévision, je chante des conneries, des conneries et des conneries. Paf, dans la gueule. Et tout ça, pourquoi? Pour faire du fric. Du fric et du fric. Et qu'est-ce qu'ils en font, du fric? Qu'est-ce qu'ils en font, du fric? Je vais vous le dire, moi. Ils le dépensent. Salaud. Jean-Louis Chotard et Gérard Grandjean sur la musique de Pierre Bénichou et Marie Grospierre. Misère. De toute façon, ça a pour durer parce que, attention, attendez que la gauche pense, vous allez voir, en 2012. Attendez que la gauche pense, vous allez voir. Mireille Mathieu, tout ça, tous les mêmes qu'on. Au goulag ! Allez, allez ! Et tricoté, pull à verre avec du luxe. Avec des manches longues, qui fait pas froid au coude. Au coude. Violence. Non, parce que ça va être interdit, c'est trop facile. Si on passe tout le temps les mêmes à la télévision, alors si on écoute tout le temps que les conneries, que les conneries, que les conneries, eh ben vous finissez par les acheter. Mais vous n'êtes pas raisonnable non plus. Vous n'êtes pas raisonnable. Alors, quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus, quelle misère. De Jean-Louis Chotard à Gérard Grandjean, sur la musique de Pierre Bénichou et Marie Grospierre. Misère. Misère, misère. C'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, misère. Ça sera donc toujours les salauds qui nous boufferont le caviar sur le dos. Misère, misère. Tu te fais l'ennemi des petits, tu te fais l'allié des pourris. Des pourris, l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres, ce qui est la moindre des choses. Convenons-en, convenons-en. Vous dérangez pas, j'ai l'habitude.
Chers auditeurs, chères auditrices, chers heurs, chers is, chers acteurs, chères actrices, je vous souhaite de rester vrai dans votre vie de tous les jours. Évidemment, beaucoup d'amour, évidemment, moins de misère. Mais si c'est la seule à vos côtés, alors embrassons-la, peu importe où l'on se trouve, des deux côtés des hémisphères. On se retrouve dans un mois. La Rosée, c'est du théâtre, de la musique, tous les troisièmes lundis de chaque mois de 16h30 à 18h. Aujourd'hui, on a lu un texte de Victor Hugo. La semaine prochaine, le mois prochain, on lira peut-être d'autres textes, on chantera ensemble, on dansera ensemble. En tous les cas, n'oublions jamais nos réalités, ne les prenons pas pour acquises, car les choses sont mouvantes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles bougent, disparaissent pour le bien ou pour le mal. Je n'ai pas la réponse à tout ça. Ciao !